Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous êtes donc ce matin avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat.
Bonjour Bruno Retailleau, merci d'être avec nous.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Sur RTL, le gouvernement n'a pas traîné à réagir à l'agression antisémite contre un petit garçon. Édouard Philippe, hier à l'Assemblée, a parlé d'un antisémitisme violent, ce que les chiffres confirment d'ailleurs pour 2017. On en a parlé ce matin sur RTL. Il annonce un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Large, ambitieux, vous en attendez quoi ?
J'en attends que ce plan ne soit pas seulement une incantation. Comment peut-on, en France, aujourd'hui, au XXIe siècle, s'en prendre à un enfant de 8 ans, tout simplement parce qu'il est juif ? C'est absolument révoltant. Et tous les Français doivent réagir. Le Premier ministre a indiqué, vous ne l'avez pas dit, qu'il y avait une nouvelle forme d'antisémitisme. Je crois qu'il y a... En parallèle de la montée du communautarisme, cette montée en même temps d'antisémitisme, c'est absolument clair. Et il faut aussi nommer les choses. Moi, je pense que quand on peut plus enseigner la Shoah dans certains quartiers, dans certaines classes, on a les racines. Dans la radicalisation, notamment dans la radicalisation, mais vous avez plusieurs livres de
Malheureusement,
il y a eu le territoire perdu de la République, il y a eu récemment un livre d'un proviseur du sud de la France. Malheureusement, vous avez cela. Et vous voyez,
les difficultés qui sont incontestables.
Souvenez-vous, c'était en juillet 2014, une manifestation au départ pro-palestinienne. Qui dégénère en émeute anti-juive. C'était à Sarcelles. Donc on a les images. Ce fait, il est indubitable.
Et alors, vous dites quoi ? Qu'il n'y a pas de réponse appropriée ?
Et donc je pense qu'il y a une réponse. Je pense que nous avons échoué à faire en sorte qu'un certain nombre de populations assimilent nos valeurs. Parce que je pense qu'une valeur de liberté, de conscience, d'égalité entre l'homme et la femme, ça ne s'intègre pas, ça s'assimile les valeurs. Et je pense que le combat, il est à l'école. Le combat, il est bien sûr d'ordre policier et judiciaire, mais le combat, il est d'abord moral. Il est d'abord sur nos valeurs. Et il faut que la République soit forte. Il faut qu'elle arrête de s'excuser. Quand j'entends un certain nombre...
Qui s'excuse ?
Je vois bien que quand on a voulu, par exemple, expliquer les attentats et ceux qui les commettaient par des propos sociaux en disant « mais vous savez, c'est les grands perdants, finalement, de... » Il ferait que la France batte sa coupe en disant qu'elle l'a produit
elle-même. À l'époque, d'ailleurs, Manuel Valls s'était élevé contre formulation d'excuses.
J'avais salué la réaction de Manuel Valls.
Par rapport, alors, plus précisément à ces actes antisémites, est-ce qu'il faut des statistiques ? Est-ce que c'est une arme pour lutter contre l'antisémitisme de les recenser, comme le réclamait hier le député Pupponi à l'Assemblée ?
C'est un débat compliqué, j'avoue que ma ligne est compliquée à faire parce que quand on entre dans les statistiques, la fois d'après, on entre de ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire la discrimination positive, qui n'est pas un concept très républicain. Moi, je pense qu'avant d'en venir là, il y a un certain nombre d'autres outils, d'autres instruments qu'on doit pouvoir utiliser, mais il ne s'agit pas de recenser les gens, il s'agit d'abord de faire respecter l'ordre républicain.
Vous avez commencé par dire qu'il faut dire les choses, il faut nommer les choses, est-ce qu'il faut les compter ? Ou est-ce que là, ce serait effectivement un petit peu trop ?
Pourquoi ? Moi, je ne l'écarte pas, en tout cas. Je n'écarte pas, mais il faudra prendre des précautions.
Voilà. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à changer la loi ? Ça aussi, c'est dans les tuyaux, pour qu'il y ait une présomption d'antisémitisme ou de racisme qui inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire, ce sera l'enquête de prouver, après une plainte, qu'il n'y a pas eu d'antisémitisme, et non plus au plaignant de démontrer que ça a été le cas quand il a été victime. Qu'est-ce que vous en pensez,
moi ? Moi, je suis républicain, et je pense que la loi s'applique de la même façon à tous. Et je pense qu'il faut se garder de catégoriser les uns et les autres. Je pense que notre arsenal nous donne certain nombre d'outils. Je pense que la lutte, elle est dans la prévention, elle est aussi dans la répression,
bien sûr. On ne peut pas faire de cas particulier dans le travail de la justice. C'est ça que vous voulez dire en cas d'accusation antisémite. Vous savez que c'est difficile à prouver.
Sur le racisme. Mais c'est sur le racisme. Et nous avons déjà, dans le droit pénal, un arsenal. Et je pense que la France a un des arsenaux les plus pointus des grands pays occidentaux. Donc, il faut l'utiliser. Bien sûr, mais je dis qu'il faut se battre sur le terrain du quotidien, il faut rien céder, rien lâcher dans aucun quartier. Voilà, et je pense que trop souvent on a baissé le pavillon.
Et on continue ou pas ? Parce que vous dites ça, on vous entend, mais on ne comprend pas très bien ce que vous voulez en venir. On continue à laisser les choses se faire comme ça, sans que la République soit défendue.
Sur le communautarisme, j'attends très clairement la réponse d'Emmanuel Macron. J'ai entendu, par exemple, Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle.
Vous poursuivez sur cette accusation que vous aviez portée pendant la campagne. Il est communautariste ? Il y a une ambiguïté ?
Oui, il y a une ambiguïté lorsque, à Marseille, devant une assemblée de Français, il a dit « je vois des Algériens, je vois des Marocains, etc. » C'est-à-dire que, pourtant c'était des Français sans doute, il catégorisait en fonction de la couleur de peau. C'était le candidat Emmanuel Macron.
Il a dit récemment, fonder son identité politique et sociale sur sa seule foi, c'est admettre que sa foi n'est pas compatible avec la République.
Maintenant j'attends les actes. Pour l'instant, vous savez, il est très fort dans les déclarations, dans les images. Il a accompli un certain nombre de choses. Pour moi, c'est beaucoup trop timide, on pourra en parler très, très longuement. Mais sur cette question-là, elle est fondamentale. Et il faut se battre à l'école. De ce point de vue-là, d'ailleurs, M. Blanquer va plutôt dans le bon sens.
Le cas Gérald Darmanin, si vous voulez bien, Bruno Retailleau, il donne lieu à une belle cacophonie chez LR. Vous situez où d'abord sur le fond? Est-ce qu'il doit démissionner après ses accusations?
Je n'ai jamais demandé la démission de quiconque. Jamais. Ça n'est jamais arrivé.
C'est cohérent avec le fait que vous avez soutenu François Fillon.
Je n'ai jamais demandé la démission de quiconque. Point final. Moi, je me fiche d'une ligne, d'une partie ou de quoi que ce soit. J'ai ma ligne à moi. Un parti, ça n'est pas une caserne. Et moi, je dis que voilà, je n'ai pas, moi, Bruno Retailleau, à me substituer au juge.
Cela dit, ça ne fait pas un peu pagaille, là, ce qui se passe dans le parti. Laurent Wauquiez dit démission et des tas de cadres comme vous, et pas des moindres, disent non.
Ce qui fait pagaille aussi, vous pourriez me le dire. Dit voilà, il y a eu 4 ministres qui ont dû démissionner,
non, mais,
et lui, il
ne
démissionne pas. Donc, quel est le critère?
Vous êtes un républicain, vous n'êtes pas au gouvernement.
Ah bah oui, mais je suis citoyen français aussi, quand même, donc ça m'intéresse de savoir les critères de choix. Mais c'est tout à fait normal. Un parti, ça n'est pas une caserne. Un parti... Mais si, je sais bien que la droite, on a voulu avoir un chef et une seule ligne.
Si c'est à chaque
plus
fois pareil,
possible.
Si c'est le cas
plus
sur
possible.
L'Europe, si c'est le cas sur...
Non,
chacun
mais sur
dira ce qu'il pense.
Sur l'Europe, sur ces questions-là, croyez-moi, on va y travailler. Dans le cas de Force Républicaine, je vais organiser une convention sur l'Europe et je veux contribuer justement à la définition de la ligne européenne de mon parti parce que c'est fondamental.
Donc il n'y avait pas un problème d'autorité de l'envoquer, en tout cas. Il est à peine arrivé, il est déjà contredit.
Non, mais non. Bien sûr que non, ça n'est absolument pas un problème d'autorité. Chacun, sur un certain nombre de points, doit pouvoir s'exprimer. L'important, en revanche, quand on aura de grands sujets, comme sur l'Europe, comme sur l'immigration, alors là, on aura, si j'ose dire, un projet qui sera celui des Républicains.
On verra. Enfin, pour quelqu'un qui nous disait tout à l'heure que l'éducation devait être fondamentale pour servir d'exemple, l'exemple que donnent les Républicains, c'est quand même la cacophonie.
Je ne comprends pas ce que vous me dites là. Vous me dites
au nom de l'exemplarité, Mathieu Gallet est-il être maintenu à la tête de Radio France ?
Je pense que ça pose un problème. Le problème, dans le cas de Mathieu Gallet, c'est le problème de la liberté et de l'indépendance du CSA. Je pense que Mme Nissen est allée trop vite et elle a enfermé le CSA dans une tension qui était compliquée, puisque s'il suivait son conseil, on accusait le CSA d'être dépendant, et s'il ne le suivait pas, on accusait le CSA d'être trop laxiste.
C'est pas la décision, c'est la phrase de Françoise Nissen qui vous
À mon avis, c'était trop rapide. Voilà.
Trop rapide. La réforme constitutionnelle, Bruno Retailleau, est en marche.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en marche.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, grand jury, RTL Le Figaro dimanche, LCI, a ouvert une voie de contournement de l'obstacle Sénat pour réduire le nombre de parlementaires, introduire une dose de proportionnelle et surtout limiter le cumul de mandats dans le temps, ce à quoi Gérard Larcher et vous-même, je crois, vous opposez. Ce serait le recours à l'article 11 qui permet d'organiser un référendum presque direct. Ça vous semble possible ?
Non, maintenant, les grands juristes savent qu'on ne peut utiliser l'article 11 pour autre chose que de réviser la Constitution. Mais la question, elle n'est pas là, je vais vous dire. Je pense que ça, c'est un petit jeu politicien qui consiste à faire pression sur le Parlement.
C'est-à-dire qu'en grandissant l'arme de l'article 11, on fait pression, c'est ça que
bien
vous voulez
sûr,
dire?
Bien sûr, vous le savez bien, Elisabeth Martichoux, vous êtes trop fine observatrice pour ne pas le savoir. Moi, je pense qu'on peut trouver parfaitement un accord. Vous savez, notre position à nous au Sénat, en réalité, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, nous, on est prêts à s'engager dans cette révision constitutionnelle. On a beaucoup, beaucoup de points d'accord. sur, par exemple, sur les magistrats du parquet, sur la Cour de justice de la République, etc. On demande deux choses, deux simples choses. Pas pour nous, c'est pour les Français. Un, que la révision constitutionnelle n'affaiblisse pas le Parlement, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de contre-pouvoirs, d'un équilibre des pouvoirs. Et la seconde chose, on veut bien qu'il y ait une baisse du nombre de parlementaires, mais cette baisse, ce ne sont pas les départements de la France péripérique, c'est-à-dire rurale, périurbaine, qui doivent en faire les frais. C'est tout ce que l'on demande. C'est quand même important. Comment est-ce que Jupiter voudrait que tout le monde se range dans une seule ligne derrière lui ? C'est pas ça une démocratie quand même adulte.
Le débat reste ouvert. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Juste un tout petit mot. Le gouvernement ne fait pas une priorité de la modernisation des lignes ferroviaires Rennes-Nantes, ou plutôt Nantes-Rennes, enfin, ça va dans les deux sens, c'est pas une grosse difficulté. De toute façon, vous estimez que c'est pas prioritaire, effectivement?
Non, ce qui est prioritaire maintenant pour nous, puisque l'État a capitulé devant les zadistes, ce week-end encore d'ailleurs, puisque la préfète et le général commandant de la gendarmerie sont allés trinquer sur la ZAD, et à leur passage, les zadistes se sont déculottés. Voilà, ça c'est l'image du week-end. Simplement, pour nous, le Premier ministre nous a dit, les gens de l'Ouest, pour prendre l'avion, il faudra aller à Paris. Il faudra prendre le train. Donc nous, on veut l'amélioration de cette ligne, qui est une ligne difficile entre Nantes et Angers, et puis ensuite Angers et Le Mans.
Elles sont là vos priorités. Merci beaucoup, Bruno Retailleau.
Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.